Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
La Nouvelle-Galles du Sud a atteint 65% de sa population doublement vaccinée au moment où elle enregistre 813 nouveaux cas et 10 décès de Covid-19. Et les habitants de Sydney, exaltés par l'annonce de la réouverture prochaine des frontières du pays. Et crise des sous-marins, la note s'alourdit pour l'Australie suite au report des négociations commerciales entre l'Australie et l'Union européenne. Hier, Scott Morrison, le Premier ministre australien, a annoncé la réouverture des frontières du pays, qui sont fermées depuis mars 2020, le début de la pandémie. L'annonce est reçue très positivement par la population qui va enfin pouvoir sortir du pays. Gregory Pless, à Sydney, est allé les interroger.
Dans un mois, la forteresse Australie va enfin rouvrir ses portes. Une nouvelle qui réjouit Gail, impatiente de revoir sa famille aux États-Unis.
I'm actually pretty excited about it. I've got family that live overseas, so the potential opportunity to go and see them in person and see my nephew who turns 2 in a couple of days is great.
Le cas de Gail est loin d'être exceptionnel puisqu'en Australie, 30% de la population est née à l'étranger. Mais d'autres sont simplement contentes de pouvoir de nouveau voyager. Et même pour certains, réaliser leurs rêves. C'est le cas, par exemple, de Nikki et sa compagne.
We're getting married next year, so we'd love to go to Italy for our honeymoon. That would be what we'd love.
Mais l'Australie, qui affiche l'un des meilleurs bilans sanitaires de la planète face à la pandémie, est-elle prête à sortir de son isolement? Sam pense que oui.
I'm all for it. I mean, yeah, it's all the vaccination rates are up and we've got a lot of things in place to make sure that the country is safe, so I don't see any reason why we shouldn't. Yeah.
De fait, les Australiens et les résidents permanents vaccinés ne seront plus astreints qu'à une quarantaine de 7 jours à domicile, mais pour tous les autres, ils resteront soumis à une quarantaine surveillée d'une durée de 2 semaines.
Entre-temps, on signale que la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 813 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement au cours des 24 dernières heures et 10 décès. Le docteur Jeremy McNulty, des services de santé de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que 87,7% de la population de l'État de plus de 16 ans a désormais reçu une dose de vaccin, tandis que 65,2% ont reçu les deux doses.
And 65,2% are fully vaccinated. And the total number of vaccines administered in New South Wales is now 10.2 million. These are great numbers. Thank you so much for coming forward to get vaccinated to protect yourself, your family and your communities.
De son côté, le Victoria a enregistré 1488 cas de COVID-19 acquis localement et 2 autres décès. La ville de Shepparton et ses environs dans le nord du Victoria, ainsi que la localité de Moorabool, au sud de l'État, ont commencé un verrouillage instantané de 7 jours avec des restrictions similaires à celles en vigueur à Melbourne. Et le gouvernement du Victoria a annoncé en même temps un plan de soutien pour l'industrie de la construction de l'État après un arrêt de 2 semaines qui devrait se terminer lundi 4 octobre. Le trésorier du Victoria, Tim Pallas, a déclaré que le gouvernement continuerait de se tenir aux côtés du secteur.
We'll be providing cash grants to thousands of operators who've been playing a key role in the fight against the Delta variant, and we're proud to announce $196.6 million in a package of support. It'll provide one-off payment to eligible businesses, including sole traders, to cover the periods of restriction from the 21st of September through to the 4th of October.
Le Queensland a enregistré 2 cas de COVID-19 acquis localement en quarantaine à domicile. Les cas, ce sont des enfants tous deux liés au cluster de l'aviation. La ministre de Santé du Queensland, Mme Yvette Datt, souligne qu'il est peu probable que ces enfants aient été sur des sites d'exposition au-delà de ceux de leurs parents. La médecin en chef du Queensland, la Dr Young, de son côté, a de nouveau exhorté les résidents à se faire vacciner.
But now, every single day that we don't have community transmission is another day that more than 50,000 Queenslanders have the opportunity to get vaccinated. We have plenty of vaccine. Please, immediately, if you haven't had your first dose of vaccine, it's really important that now's the time you come forward and get vaccinated.
Et le territoire de la capitale nationale, la LA City, a enregistré de son côté 52 nouveaux cas de COVID-19, dont au moins 29 acquis dans la communauté. Le nombre de cas enregistrés ce samedi constitue un record pour LA City depuis le début de la pandémie. Et la décision de Canberra d'annuler le contrat du siècle conclu avec la France pourrait lui coûter bien plus cher que prévu. En effet, le 12e round des négociations entre l'Australie et l'Union européenne à propos d'un accord de libre-échange est remis en doute. Les négociations ont en effet été reportées après la fureur déclenchée par l'Australie en annulant l'important contrat militaire de sous-marins français choisissant d'acheter à la place des engins à propulsion nucléaire Made in USA. Explication Grégory Pless pour RFI.
La facture téléphonique du ministre australien du commerce, Dan Tehan, s'est considérablement allégée ces derniers mois. Déjà dans l'incapacité depuis des mois de dialoguer avec son homologue chinois en raison des tensions entre Canberra et Pékin, on sait aussi qu'à Paris, depuis un peu plus de deux semaines, plus personne ne prend ses appels. Un phénomène qui semble s'être étendu jusqu'à Bruxelles, où Dan Tehan devait se rendre le mois prochain pour participer au 12e tour de négociations portant sur la signature d'un traité de libre-échange avec l'Australie. Ces négociations sont désormais à l'arrêt, c'est ce qu'a confié ce matin un responsable de l'Union européenne à l'AFP. Et cette pause pourrait durer puisque la France prendra la présidence de l'UE en janvier prochain. Un coup dur pour l'Australie puisque l'Union européenne est son troisième plus important partenaire commercial. La signature d'un traité permettrait de rééquilibrer la balance des échanges qui actuellement penche très largement en faveur de l'Union européenne.
Et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a entre-temps déclaré qu'il se rendra en France la semaine prochaine, au moment où l'administration Biden tente d'apaiser les tensions dues à l'échec de l'accord sur les sous-marins, donc l'accord entre la France et l'Australie. Anthony Blinken espère également éviter des dommages potentiellement plus durables causés par l'exclusion du plus ancien allié des États-Unis de la nouvelle alliance Indo-Pacifique AUKUS. Le département d'État américain a indiqué que M. Blinken sera à Paris lundi 4 octobre pour une conférence économique internationale et il profitera de cette visite pour rencontrer les autorités françaises. Et le nouvel ambassadeur de Chine aux États-Unis a déclaré que les deux pays traversaient une période d'ajustement dans leurs relations bilatérales. L'ambassadeur Qin Gang, qui a pris ses fonctions fin juillet, a également souligné que la diplomatie elle-même est un processus d'ajustement permanent.
There is another ancient Chinese saying, no discord, no concord. China and the US are still going through the adjustment period, and the process may provide an opportunity for both countries to rediscover and better recognize each other, so as to find a way to get along with each other. In my view, diplomacy itself is an exploring process, which is to deal with all kinds of people from around the world.
Monsieur Qin a appelé les États-Unis à coexister pacifiquement, affirmant que les deux pays devraient se respecter mutuellement. Et l'une des plus vieilles enquêtes non résolues a connu un rebondissement en France, un rebondissement inattendu. Un tueur en série, surnommé le Grêlé, était recherché depuis la fin des années 80, mais l'ADN retrouvé sur les scènes d'un crime correspond à celle d'un ancien gendarme qui s'est suicidé ce mercredi en laissant une lettre d'aveu. Cela faisait 35 ans que les enquêteurs cherchaient à identifier le Grêlé. Rappel des faits avec Marie Casadebet pour RFI.
Cela faisait 35 ans que les enquêteurs cherchaient à identifier le Grêlé. 1986, après le viol et le meurtre d'une fillette de 11 ans à Paris, le portrait robot d'un suspect circule. Son visage présente des cicatrices d'acné, d'où son surnom. La police le soupçonne par la suite d'avoir étranglé un couple dans la capitale en 1987, d'avoir tué une jeune femme en 1994 en banlieue parisienne et commis au moins 6 viols. Au fur et à mesure, un profil se dessine, celui d'un individu qui aurait pu exercer le métier de gendarme, un profil ADN est aussi isolé. Ces derniers mois, les investigations sont relancées. Quelque 750 gendarmes en poste en région parisienne au moment des faits sont convoqués. L'un d'eux, âgé de 59 ans, ne se présente pas pour son audition à Montpellier. Le même jour, le 29 septembre, son corps est retrouvé. Selon plusieurs médias, il se serait suicidé en laissant une lettre d'aveu. Il se serait décrit comme un redoutable tueur ayant agi jusqu'en 1997. Or, le dernier meurtre qui lui est attribué remonte à 1994. Les enquêteurs devraient donc poursuivre leurs investigations.
Et prestation de serment hier du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya comme président de la République de Guinée. La cérémonie s'est déroulée à Conakry devant la Cour suprême du pays. Plusieurs diplomates étrangers étaient présents, mais plusieurs chefs d'État ont boudé la cérémonie. Conakry, Sidi Yansané pour RFI.
C'est vêtu de son uniforme beige et de ses inséparables lunettes noires que le colonel Mamadi Doumbouya a été investi président dans l'enceinte du palais Mohamed V. Avant la prestation de serment, le président de la Cour suprême Mamadou Sylla a insisté auprès du nouveau chef de l'État d'éviter les erreurs commises par son prédécesseur Alpha Condé.
Le peuple de Guinée a franchi un épisode décisif de son histoire qui n'autorise plus la gestion solitaire de la chose publique dans le secret d'un cabinet, par des dirigeants qui n'auraient pas de compte à rendre au peuple.
Après avoir rappelé les axes de la transition, dont une nouvelle constitution, la réforme du système électoral et du fichier, le président Doumbouya a insisté sur la lutte contre l'impunité, le grand fléau guinéen.
L'indépendance et l'impartialité de la justice constituent un impératif afin d'instaurer la crédibilité de notre État et de recréer la confiance des citoyens dans l'institut judiciaire, qui en réalité a besoin d'une véritable renaissance.
En début de soirée et pour la première fois en tant que président, Mamadi Doumbouya a donné une allocution télévisée pour la célébration de la fête nationale ce samedi, placée, a-t-il déclaré, sous le signe de l'espérance et du rassemblement.
Et l'ONU dénonce la décision de l'Éthiopie d'expulser 7 hauts fonctionnaires onusiens alors que la famine menace dans la région. Une région déchirée par la guerre au Tigré. L'Éthiopie a déclaré les fonctionnaires persona non grata, leur donnant 72 heures pour partir, mais le porte-parole de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré que ce genre de doctrine ne pouvait pas être appliquée au personnel de l'ONU.
This is a doctrine that applies to diplomatic agents accredited by one state to another state. The application of this doctrine to United Nations officials is contrary to obligations under the Charter of the United Nations and the privileges and immunities to be accorded to the United Nations and its officials.
Et un coup d'œil météo à travers l'Australie ce samedi. Perth 20 degrés, Adélaïde 23, Melbourne 18, Hobart 16, Canberra 19, Wollongong 22 degrés, Sydney 23, Newcastle 25, Brisbane 28, Cairns 34 et Darwin 32 degrés. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. La Nouvelle-Galles du Sud a atteint 65% de sa population doublement vaccinée au moment où elle enregistre 813 nouveaux cas et 10 décès de COVID-19. Les habitants de Sydney, exaltés par l'annonce de la réouverture prochaine des frontières du pays. Et crise des sous-marins, la note s'alourdit pour l'Australie suite au report des négociations commerciales entre l'Union européenne et l'Australie. C'est tout pour l'actualité. Après une courte pause, le magazine des sports.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.